Bonsoir à tous et bienvenue en direct dans Quartier Populaire pour cette première émission de l'année 2026 que j'ai le plaisir d'animer ce soir en compagnie de mon camarade Harold Bernat. Bonsoir Harold.
Bonsoir Aude, bonsoir Nicolas et bonsoir à toutes et à tous.
Alors, au nom de toute l'équipe de QG, bien sûr, on vous souhaite une très bonne année. Le moins qu'on puisse dire, c'est que celle-ci a démarré pied au plancher au niveau international. Hein. Je ne sais pas ce que nous réserve la suite, mais en tout cas, je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Ça, au moins, ça semble certain. Le 3 janvier dernier, donc 2 jours après le nouvel an, le monde apprenait avec stupéfaction le kidnapping du président en exercice du Venezuela, Nicolas Maduro, par les États-Unis. Le prétexte, c'était le narcotrafic, mais maintenant, même le département de la justice américain a reconnu hier à New York, à l'occasion de l'ouverture du procès de Nicolas Maduro, que le fameux cartel dont il était censé être le parrain n'existait pas. L'objectif de Donald Trump et des siens, bien sûr, c'est de faire main basse sur les réserves pétrolières du Venezuela, les plus vastes du monde. On ne sait pas, en revanche, quelle forme prendra encore ce changement de régime, puisque la vice-présidente, hein, du pays, la vice-présidente de Maduro, est toujours aux commandes à l'heure où on se parle. On ignore aussi qui sera la prochaine cible d'un empire américain qui semble à nouveau ensauvagé. C'est le titre de notre émission ce soir, assoiffé de conquêtes et de pillages coloniaux en tout genre, dans une sorte de nouveau Far West global. On parle déjà du Groenland, mais aussi d'une opération qui serait imminente en Iran. Nous en reparlerons ce soir. Pour penser toutes les implications de cette situation, nous recevons sur l'antenne de QG à nouveau Nicolas Mirkovic. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Aude, bonsoir Harold, merci pour l'invitation.
Nicolas, vous êtes l'auteur de L'Amérique Empire aux éditions Temporis. Vous êtes aussi l'auteur d'un autre livre sur l'Ukraine, Le chaos ukrainien. Vous êtes le président de l'association Est-Ouest. Vous êtes un grand connaisseur des interventions guerrières américaines à travers la planète et notamment de leurs dégâts humains. J'invite bien sûr tous ceux qui nous écoutent ce soir, hein, c'est le format habituel du Quartier Populaire, à poser vos questions dans le chat tout au long de la soirée. Nos modérateurs qui sont ce soir Antoine Biraud et Maxime Asseyo, je les salue, nous les remonterons en direct. Mais tout de suite, Nicolas, une première question, bien sûr, hein, concernant ces événements incroyables que nous avons vécus en début d'année. On s'attendait, à vrai dire, à une attaque du Venezuela depuis des mois. C'était dans l'air, on en parlait. C'était même la une du monde diplo, hein, du mois de janvier. Est-ce que vous avez été néanmoins surpris par la brutalité de la méthode?
Oui, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait un kidnapping. Je m'attendais à une méthode un peu plus classique, soit d'invasion. On avait bien vu que Trump, qui n'en est pas à son coup d'essai, hein, n'oublions pas que depuis qu'il est au pouvoir, depuis janvier 2025, il en est à son septième attaque contre une nation souveraine sans mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je ne m'attendais pas à un kidnapping. Je m'attendais à un bombardement de sites stratégiques pour les Américains. Je m'attendais à une politique d'intimidation. Ils avaient déjà fait fermer l'espace aérien au-dessus du Venezuela. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il n'y ait pas de résistance du côté de l'armée vénézuélienne. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir investiguer. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que cela est possible que les Américains aient pu survoler comme ça le Venezuela sans riposte? Et la brutalité derrière, évidemment, avec ce kidnapping de Maduro, de son épouse, cette démonstration de force avec les caméras braquées sur les prisonniers, comme si c'était des prisonniers de guerre, comme si c'était des mafieux. Et la communication de la Maison Blanche, on se croirait dans GTA, où vraiment on a Trump montre des images de lui comme s'il était le boss de la mafia, le boss d'un gang qui avait fait tomber le terrible Nicolas Maduro, qui n'a a priori quand même pas fait grand-chose contre ni Donald Trump ni les Américains. Tout ça est extrêmement violent, c'est extrêmement choquant, c'est criminel et c'est juste clairement interdit par le droit international, ce qui rend cette attaque encore plus hideuse, parce qu'on se demande que peut faire un pays aussi puissant que les États-Unis qui n'a plus aucun respect pour le droit international. Comme tu le disais tout à l'heure, Aude, c'est quoi la prochaine étape sur dans cet engrenage guerrière et avec cette réaction de la Maison-Blanche qui est complètement disproportionnée, qui manque complètement à tous les codes de la diplomatie et de la politique internationale?
Une question peut-être à Harold, ou une première réaction.
Ouais, la réaction, c'est une question que je poserai à Nicolas, c'est co comment techniquement ça me paraît di difficile à mettre en place. On reviendra sur les réactions après, mais certains ont parlé très tôt de zéro mort. Hein, on se croit revenu au temps de la première guerre du Golfe, hein, la guerre chirurgicale, avec cette espèce de fascination pour la capacité d'intervention et de précision des frappes américaines et de pouvoir mener ces opérations extérieures sans mort. Je voulais savoir si vous aviez là-dessus un peu des informations, un peu plus rapidement sur le déroulé un petit peu de ce qui s'est passé et sur les morts. Et voilà, comment c'est vrai, comment c'est possible en fait? Il y a une question qu'on se pose tous.
Oui, cette intervention militaire, on va en savoir un peu plus, peut-être pas dans les jours à venir, mais au moins dans les semaines, mois à venir, on va en savoir plus comment est-ce que c'est possible qu'ils aient réussi à vraiment rentrer dans à Miraflores, à récupérer Maduro, sa femme. Bon, on sait quand même qu'il y a quand même plusieurs dizaines de morts, donc ça ne s'est pas fait sans effusion de sang. Est-ce qu'il y a de la traîtrise? Est-ce que tout était extrêmement bien préparé? Est-ce qu'ils avaient des caméras partout? On ne sait pas tout ça. Ça paraît vraiment impossible qu'ils aient pu faire ça sans aide intérieure, quoi. Est-ce qu'il y avait aussi peut-être des traîtres ou de l'aide locale? Ça, c'est quelque chose qu'on peut envisager à ce stade-là, parce que envoyer autant d'hommes à un moment où justement l'armée vénézuélienne est en pleine alerte, c'est qu'il va y avoir cette attaque, ou en tout cas se prépare à cette attaque, me paraît impossible. Après, ils sont rentrés, ils ont mené leur opération commando, ils sont rentrés, d'après ce qu'ils disent pour l'instant, ce qu'ils fuitent dans les médias, donc pareil, il faut toujours prendre ça avec beaucoup de pincettes. Ils auraient pris le couple présidentiel au sous du lit, ils les auraient embarqués et puis ils les auraient amenés d'abord dans un premier temps à Guantanamo. Vous savez, Guantanamo, c'est donc la prison américaine qui est à Cuba, que les Américains ont imposée sur l'île de Cuba, et puis avant de l'amener à New York et de le parader comme une bête de foire devant tout le monde. On peut imaginer que ça a pris quand même pas mal de préparation du côté des Américains. Et évidemment, avec une opération comme ça, on voit que Trump compte énormément à ce qu'il n'y ait pas d'effusion de sang, en tout cas pas de dégâts contre l'armée américaine, ce qui aurait été comment dire, aurait fait un tollé. On se souvient de l'échec retentissant du débarquement de la baie des cochons, qui avait terni l'image des États-Unis et de Kennedy à peine arrivé. Et ça, c'est quelque chose que Trump ne voulait pas reproduire. Donc, je pense qu'ils ont dû prendre énormément de précautions pour que les Américains se servent de ça comme d'une espèce de tête de gondole de la politique étrangère guerrière américaine. Voilà ce qui va se passer si vous n'obéissez pas aux États-Unis. Voilà ce qu'on est capable de faire. On est capable d'intervenir, de prendre vos présidents, de partir et puis ensuite de dire que c'est nous qui prenons le contrôle du pays sans effusion de sang, sans guerre. Il y a beaucoup d'images évidemment autour de ça. Et je pense que tout cela a été fait avec cette idée de montrer qu'il y avait une nouvelle façon de faire la guerre. En effet, Trump, dans ses 7 attaques depuis le début de l'année, n'a pas encore envoyé d'hommes au sol officiellement. Et je pense qu'il veut continuer là-dessus en disant, voilà, c'est la paix à travers la force, on fait des petites opérations commando, des cibles stratégiques, on part, il n'y a pas de décès, et on arrive à tordre le bras des responsables politiques locaux et à mettre en place la politique qui sert les intérêts, évidemment, des États-Unis.
Ouais,
Alors,
on arrive un
c'est vrai
peu à
qu'on
une sorte
a à
de
peu
terreur
près.
d'État, en fait, hein, de terreur d'État, de
C'est
terrorisme
ce
d'État, en fait. Hein. On en avait déjà parlé à ce sujet de ces nouvelles actions, de ces modes d'action étatiques, qui sont plus vraiment du ressort de la guerre, mais des interventions quasi terroristes, en fait, pour cibler des personnalités.
On peut se poser la question, qu'est-ce qui serait passé si un groupe armé qui n'appartenait pas à un État intervenait, séquestrait le président d'un État souverain, laissait 100 morts derrière lui et s'échappait dans la nature? Comment est-ce qu'on traiterait ce groupe armé? Quels seraient les qualificatifs qu'on emploierait dans nos médias? Et pourquoi est-ce qu'on changerait de ton? Pourquoi est-ce qu'on changerait d'appréciation sous prétexte que c'est un État étranger, un président d'un autre État qui fait ça? Ça n'a aucun sens. En effet, c'est du terrorisme d'État.
Alors, parmi les images très spectaculaires hein, qu'on a pu voir hein, depuis le 3 janvier, moi, il y en a une qui m'a énormément frappée. C'est celle de Maduro exhibé littéralement dans les rues de Manhattan fourgon, porte ouverte du fourgon, toute sirène hurlante. On a eu vraiment l'impression de vivre une espèce de grand saut en arrière, hein, de revenir à l'époque des triomphes romains au sens propre du terme, c'est-à-dire de voir Maduro exhiber, exposer comme ces chefs vaincus hein, d'armées antiques, hein, comme Vercingétorix avait pu l'être. Au moment du triomphe de César ou des rois orientaux, africains, hein, qui avaient été capturés par Auguste, par Trajan. C'est extrêmement codifié, on le sait, hein, dans la culture romaine, tout était absolument millimétré. Il s'agissait vraiment d'affirmer la domination universelle de Rome, de rappeler au peuple que l'ordre romain avait été restauré et on a eu l'impression de vivre une espèce de mise en scène de cet ordre hier à New York.
C'est exactement, c'est choquant. On se demande à quel niveau est-ce que la politique américaine va s'abaisser. Alors, on sait que depuis longtemps, elle attaque et qu'elle mène des politiques d'ingérence dans le monde entier, en Amérique latine. Alors, je ne vais pas forcément dire que c'était mieux avant, mais on sait que ça se faisait sous le manteau, ils étaient plus discrets. Bon, ce n'est pas la première fois qu'ils exhibent des images de présidents ou de chefs d'État humiliés. Ils l'avaient fait avec Saddam Hussein, avec Noriega, qu'ils avaient été déjà récupérés au Panama dans les années 90. C'est un modus operandi américain. Et là, on voit très bien, et quand on fait la corrélation entre ces images et comment dire, les prises de parole des responsables politiques, leur façon de parler, quand Trump écrit FAFO sur ces images, ça veut dire fuck around, find out, c'est venez me chercher, vous allez voir sur quoi vous allez tomber. Enfin, no, ce n'est pas ainsi qu'un chef d'État est censé s'exprimer après une opération comme ça. Aucun chef d'État n'est censé s'exprimer comme ça. On est quand même censé avoir un certain respect. C'est un moment qui est dur, c'est un moment, c'est une action militaire. Normalement, on est censé avoir un certain respect pour son ennemi. Et là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles. On ne le respecte pas, on le montre en pâture, on fait en sorte qu'il soit filmé, photographié par tous les journalistes. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? D'abord parce qu'ils veulent évidemment humilier Maduro, ils veulent lui faire peur et ils veulent envoyer un signal. Ils veulent vraiment montrer au reste du monde ce dont ils sont capables. Et ça fait partie de cette campagne de politique. Donald Trump ne se fait pas du tout passer pour un responsable politique respectable. C'est le nouveau cow-boy, c'est le nouveau shérif qui arrive en ville, c'est lui qui fait la loi, il est l'homme le plus puissant de la nation, la plus puissante de la planète. Il le montre et il n'en a plus rien à faire des règles. Et il est là pour intimider, il veut intimider. Et c'est pour cette raison qu'ils ont laissé les médias filmer les personnes, directement filmer le couple Noriega, pas le couple Noriega, pardon, le couple
Maduro.
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 Non.
Alors à ce propos, Nicolas, il y a une question de Lucie 1532. Pourquoi Trump a-t-il décidé également de kidnapper la femme de Maduro? Pourquoi prendre le couple en fait?
Alors, je ne sais pas. Alors, j'ai vu dans les chefs d'inculpation, on l'accuse aussi de faire partie de ce cartel d'El Soles qui n'existe pas. Elle serait impliquée dans ces histoires de trafic de drogue. Enfin, tout ça, ça ne tient pas debout. Et a priori, c'est pour ça. Dans les chefs d'accusation, c'est pour ça qu'elle a été kidnappée également avec Nicolas Maduro. C'est la version américaine, évidemment, mais c'est vrai que ça, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il kidnappe son épouse aussi? C'est quand même le chef de l'État, c'est Nicolas Maduro, pas.
Alors évidemment, Nicolas, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on ne peut qu'être frappé par le parallélisme des événements avec l'Ukraine. Et là, on a des discussions et on a des questions à ce sujet. Une question de Michel Seymour, hein, Varoufakis compare l'intervention des US au Venezuela avec l'intervention russe en Ukraine. N'est-ce pas une erreur? Donc, en fait, évidemment, on est tenté de dire ce qui est incroyable. On va y revenir tout à l'heure dans les réactions. C'est que les réactions pour l'Ukraine, c'est absolument une ingérence, etc. Alors que là, c'est tout l'inverse, quoi. C'est une opération de. Voilà. Et on va en reparler. On joue la légitimité contre la légalité, quoi. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas du droit international, mais c'est quand même un bon résultat. Donc la question de Michel Seymour, est-ce que cette comparaison est pertinente, en fait, entre les deux et dans quelle mesure on peut la mener?
Non, elle n'est pas pertinente. Il y a un parallèle. Je vais vous dire où se trouve ce parallèle. Il y a un État étranger qui s'est ingéré. Il y a un État qui s'est ingéré dans un État étranger. Et dans les deux cas, c'était illégal, que ce soit la Russie en Ukraine ou que ce soit les États-Unis au Venezuela. Mais Il y a aussi un élément qui est majeur, et on ne peut pas comprendre la guerre en Ukraine si on ne comprend pas ça, c'est qu'il y a quand même eu un coup d'État organisé en Ukraine par les Américains, qu'ils ont pris en charge l'armée américaine, l'armée ukrainienne, qu'ils ont pris en charge l'armée, ils ont envoyé l'OTAN pour former l'armée ukrainienne, qu'ils ont créé la CIA, c'est le New York Times qui leur a même a créé plus d'une dizaine de bases le long de la frontière russe et qui avait une menace réelle pour la Russie à partir de l'Ukraine, à partir du moment où, eh bien, il y a eu un coup d'État qui avait été organisé et que les Américains eux-mêmes avaient mis en place un régime anti-russe sur la frontière russe. Donc, il y avait une menace. Donc, même si cette intervention russe est illégale, on peut la comprendre dans la mesure où les Russes disent, bah, moi, je préfère intervenir avant que l'Ukraine serve de porte d'entrée à l'OTAN pour envahir mon pays parce qu'il y a une menace sur la frontière. Le Venezuela ne représente encore aujourd'hui aucune menace pour les États-Unis. Le Venezuela n'a pas attaqué les États-Unis, n'a rien fait aux États-Unis, ne représente absolument aucune menace pour les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis accusent le Venezuela d'être une plateforme de trafic de drogue. On a parlé, on l'a dit en début de cette émission, quand ils avaient inventé un cartel qui n'existe pas. Marco Rubio avait même dit qu'il pensait assimiler ce cartel à un mouvement terroriste, et il disait ça au mois de novembre dernier. Le Venezuela n'a rien fait aux États-Unis et les États-Unis envahissent le Venezuela. Donc on ne peut pas comparer les deux invasions dans la mesure où le Venezuela ne représentait aucune menace et qu'il n'y a aucune puissance étrangère qui est au Venezuela capable de se servir du Venezuela comme d'une base arrière pour de futures attaques contre les États-Unis.
Alors, je pense qu'il faut revenir au fond de la question. Hein. Peut-être que pour tous ceux qui nous écoutent, ce n'est pas clair parce qu'il y a un matraquage médiatique absolument terrible, hein, bien sûr, hein, sur le mode un dictateur communiste menotté. Finalement, c'est une bonne chose, etc. Même notre président de la République, hein, a quasiment dit ça en ces termes. Bon, il faut quand même revenir sur ce dont les États-Unis accusent le Venezuela et la réalité des choses. Donc, pour ce qui est du trafic de drogue, je pense que c'est important de préciser que le Venezuela n'est pas est loin de là, le premier exportateur de cocaïne au monde. Hein, c'est la Colombie et puis
Merci.
le Mexique. Et comme par hasard, ce ne sont pas eux hein, que les États-Unis sont venus bombarder et dont ils sont venus arrêter le dirigeant. Donc, il faut le rappeler aussi, je pense que c'est des éléments de contexte extrêmement importants. On reproche à Maduro d'avoir paupérisé son peuple, d'être un très mauvais, d'être non seulement à la tête d'un État autoritaire, mais d'être aussi un très mauvais gestionnaire, un très mauvais dirigeant. Il faut quand même savoir que le Venezuela est sous sanction à cause des États-Unis depuis l'ère. Obama d'ailleurs, hein, tout ça est bien antérieur à Trump, qu'ils ont été littéralement déconnectés du marché de l'énergie mondiale, empêchés d'exploiter leur pétrole, que le pays est dans une crise économique absolument terrible depuis une dizaine d'années, que cette crise et les sanctions ont suscité le départ de millions de Vénézuéliens. Etc., etc. Je pense que Nicolas, c'est bien que tu rappelles ces bases-là.
C'est l'hypocrisie occidentale, mais vraiment montée à son paroxysme. Donc, on va accuser le responsable politique élu démocratiquement du Venezuela d'être responsable de la pauvreté, d'être responsable de la fuite de millions de Vénézuéliens, sans rappeler que cette pauvreté est en grande partie due à des politiques de sanctions menées par les États-Unis qui empêchent l'économie du Venezuela de se développer. Et c'est une tactique qui est archi connue. On disait la même chose à propos de Milosevic en ex-Yougoslavie. Il y avait plus de 10 ans de blocus autour du pays, de sanctions économiques qui étaient extrêmement difficiles. Et je sais de quoi vraiment je parle, de se procurer des médicaments, de la nourriture, des aliments pour le bâtiment. Eh bien, quand vous êtes sous sanctions, eh bien, et que vous n'avez pas accès à des éléments du marché dont vous avez besoin pour faire vivre votre économie, évidemment, votre société s'appauvrit, évidemment, votre population pense à partir. Quand on ne dit pas ça, eh bien, on n'a qu'une version de l'histoire. Donc, évidemment, d'un côté, les États-Unis empêchent les Vénézuéliens de se développer, et on dit, bah, regardez, c'est un pauvre, c'est un sale communiste qui dirige ça, et voici les fruits du communisme. Est-ce que Nicolas Maduro était le meilleur gestionnaire? Je ne sais pas, peut-être pas, mais en tout cas, ne pas parler de cette pression constante, de cette oppression de la part des États-Unis. États-Unis qui empêche l'économie d'un État souverain qui n'a rien fait, je le rappelle, aux États-Unis de se développer est criminel. Parce que derrière cela, bah, il peut y avoir des problèmes, évidemment, d'alimentation, il peut y avoir des problèmes de procuration pour se procurer des médicaments, des biens nécessaires. Eh bien, quand vous avez l'interdiction de les importer, évidemment, pourquoi est-ce qu'on ne pointe pas du doigt la politique menée par les États-Unis? On l'a vu à Cuba, on l'a vu également en Irak, on l'a vu dans tous ces pays. De toute manière, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est la politique des États-Unis et d'une partie de leurs alliés occidentaux que d'affamer des populations et puis ensuite d'accuser les responsables politiques de tous les maux. Parce qu'in fine, qu'est-ce qui intéresse les États-Unis? Eh bien, c'est de prendre le contrôle du pays. Donc évidemment, si tout se passait bien au Venezuela, eh bien, ça serait encore plus compliqué pour Donald Trump d'intervenir. Et on oublie aussi qu'à une époque, et ça c'est très important dans cette relation entre le Venezuela et les États-Unis, c'était des entreprises américaines, des multinationales américaines qui géraient les puits de pétrole, parce que le Venezuela est extrêmement riche. C'est comme le Congo, c'est terrible. C'est un pays qui est extrêmement riche, mais qui n'arrive pas à vivre de cette richesse, entre autres à cause de cette politique américaine. Et les Américains, à une époque, géraient. Les puits de pétrole des multinationales américaines étaient extrêmement riches grâce au pétrole vénézuélien, mais est-ce que vous pensez que la population du Venezuela était plus riche pour autant? Bien sûr que non. Ce qui intéresse ces multinationales, c'est l'or noir du Venezuela, mais c'est également l'or, il y a de l'or, il y a quelques terres rares, il y a du gaz aussi. Voilà ce qui intéresse les États-Unis aujourd'hui. Mais quand ils y étaient, le pays n'était pas plus riche pour autant. Et c'était un dictateur, un vrai de vrai dictateur, des dictateurs qui étaient en place, qui ont torturé le père d'Elcio Rodríguez, qui est là aujourd'hui la vice enfin, qui vient de prendre la place de Maduro, son père a été torturé par des dictateurs qui étaient soutenus, un dictateur qui était soutenu par les États-Unis. Ça, on n'en parle pas. Donc, c'était cette espèce d'hypocrisie qu'il y a à vouloir accabler Maduro de tous les maux, alors que les États-Unis, quand eux, ils étaient extrêmement présents, menaient des politiques étaient bien plus violentes à l'égard du peuple vénézuélien. Et s'il y a eu la révolution bolivarienne à la fin des années 90, c'est bien parce que les Vénézuéliens voulaient reprendre possession de leurs propres terres, de leurs richesses. C'est normal que s'il y a de la richesse sous le sol vénézuélien, qu'il appartienne d'abord au peuple vénézuélien. Voilà ce qu'ils demandaient. C'est ça l'histoire de la révolution bolivarienne.
Tout à fait. À cet égard, une des interventions les plus cyniques qu'on ait pu entendre hein, depuis le 3 janvier, c'est celle de J.D. Vance, le vice-président de Trump, qui a dit que les États-Unis souhaitaient récupérer leur pétrole. Effectivement, parce que les majors pétrolières américaines spoliant les Vénézuéliens exploiter le pétrole et qu'ils souhaitent en fait revenir à la situation antérieure à la révolution bolivarienne et pouvoir à nouveau se remplir les poches sur le dos du peuple vénézuélien auquel ils ne pensent évidemment absolument pas. Moi je pense que toi qui connais bien Nicolas, d'ailleurs on peut peut-être se tutoyer désormais comme on se connaît très bien, je pense que c'est
Pas de
un peu
problème.
artificiel, ce vouvoiement. Comme tu connais très bien l'histoire hein, de toutes les interventions américaines des 30 dernières années, je précise d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent que tu es franco-serbe, hein, donc tu as vécu cette agression-là à une époque dans ta vie, dans ta chair, je pense que c'est important de le dire. Et c'est vrai que la grande différence quand même entre l'administration Trump et les administrations américaines précédentes, c'est que maintenant, il n'y a plus d'habillage humanitaire, ou quasiment plus, il n'y a plus de prétexte démocratique aux opérations militaires. On est dans la prédation pure et simple, on est dans la spoliation sans phare, et ça, tout de même, alors, ce n'est pas nouveau à l'échelle de l'humanité, mais justement, pour revenir à cette notion de grand bond en arrière, ça nous ramène quand même à l'époque des empires, à l'époque du colonialisme décomplexé.
Exactement. Il y a maintenant, Donald Trump vient de dire, je suis intéressé par le pétrole de mon voisin, qui ne m'a rien fait, mais je vais le chercher parce que j'en ai besoin pour mon économie. Et d'ailleurs, il parle des autres nations. Il dit d'ailleurs, au passage, je suis également intéressé par le Canada, par le Groenland, et peut-être que je ferai main basse sur le canal de Panama, sans aucun respect pour le droit international, sans aucun respect pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sans aucun respect pour l'instabilité évidente et des tensions que cela va créer. On en parlera certainement tout à l'heure, mais on peut imaginer que des pays qui ont des intérêts au Venezuela ou qui étaient partenaires du Venezuela ne voient pas ça du tout d'un bon œil. Je pense tout particulièrement à la Chine et d'autres pays d'Amérique du Sud qui collaboraient avec le Venezuela. Et il n'y a plus d'égard pour ça. C'est clairement la loi du plus fort. Ça nous remonte, je pense, même à l'âge de pierre, hein, pour ainsi dire. Parce qu'il n'y a même plus il n'y a plus de notion de civilisation. C'est j'ai la massue plus grosse que celle du voisin, donc je vais taper parce que ce qu'a mon voisin m'intéresse. Donc on est passé au 21e siècle, sans passer par la case culture, du tout. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce qu'un pays, c'est eux en plus qui ont inventé ce terme de rogue state, d'État voyou. Mais ils sont eux-mêmes le premier État voyou en attaquant des nations de manière complètement illégale, en s'appropriant les richesses qui appartiennent à un pays étranger. Ça, c'est la définition même d'un État voyou. Quelles seront les limites d'un tel État? Et jusqu'où est-ce qu'on va accepter ça? Parce qu'on a parlé un petit peu de l'hypocrisie tout à l'heure et du deux poids, deux mesures. Si on regarde les réactions, la différence des réactions qu'il y a entre l'invasion russe en Ukraine et l'invasion américaine au Venezuela, on est aux antipodes. Là, normalement, on devrait avoir des sanctions par milliers qui tombent sur Washington. On devrait avoir un boycott déclaré pour la prochaine Coupe du monde de foot qui va se dérouler aux États-Unis. Non, on n'entend rien de tout ça. On n'entend rien de tout ça. Et quand Donald Trump dit qu'il veut récupérer le Groenland dans 2 mois, donc le Groenland qui fait partie du Danemark, qui fait partie de l'Union européenne, le Groenland qui est extrêmement bien positionné dans l'Arctique, qui est un sous-sol très riche en terres rares, qui représente 50% de la superficie de l'Union européenne, enfin 50% de la superficie de l'Union européenne continentale, on ne dit rien. On ne dit rien. Et au contraire, les Danois, ils achètent des F-35 américains que les Américains peuvent débrancher à distance. Enfin, on est dans un monde qui est complètement fou avec les Américains qui profitent de cette situation. Ils voient bien qu'il y a en face d'eux, ils voient bien que les Russes sont impliqués dans leur histoire d'Ukraine, que les Chinois qui n'ont pas l'habitude de faire le gendarme du monde regardent ça, je pense, avec beaucoup d'inquiétude. Les Européens qui sont perdus, comme le lapin au milieu de la route, en train de voir la voiture qui lui fonce dessus, et ils profitent de la situation, ils disent, c'est maintenant ou jamais que je vais faire main basse sur les richesses des pays qui m'entourent, parce que personne ne va pouvoir m'en empêcher.
Alors effectivement, hein, on a été tous frappés, je pense, par la réaction des dirigeants de l'Union européenne, hein. Notre président Emmanuel Macron, enfin ça on a l'habitude, mais on l'évoquait tout à l'heure, mais aussi Giorgia Meloni, hein, tous ont fait preuve d'une vassalisation complète. Je rappelle que cette dernière n'a même pas pointé la violation du droit international. Elle a au contraire activement défendu l'action des États-Unis, la qualifiant de légitime défense face au narcotrafic. Donc là, vraiment, on a pu avoir un bel échantillonnage, hein, de propos de peuples complètement colonisés, sans aucune marge de manœuvre, en fait, hein, face au maître américain. Le maître américain ne respectant absolument plus les formes, n'ayant plus la décence minimale, hein, qu'il avait jusqu'ici, enfin, depuis une vingtaine d'années. Et eux, bah, comme tu le dis très bien, quoi, complètement affolés parce qu'ils ne sont pas habitués à s'opposer à lui. Ils ne sont pas habitués à lui tenir tête.
Non, on a presque envie qu'ils se fassent tous kidnapper par une nation étrangère qui les accuserait de n'importe quel mal dont ils seraient responsables ou pas, d'ailleurs, pour voir s'ils sont d'accord avec ce principe, parce que c'est la loi de la jungle, hein. Ça, à partir du moment où j'accuse mon voisin de n'importe quel mal et que je sans preuve, sans rien, parce qu'il y a quand même des règles aujourd'hui. Il y a des règles, il y a un droit international, il y a des habitudes, des coutumes qui sont prises pour ce genre de sujet. Les Américains ont signé des traités qui les obligent aussi à respecter ce droit. Ils ne le font pas. Si c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Donc applaudir quand on est du bon côté de la Manche, c'est facile. Mais on va passer, quand certaines de ces personnes, à un moment ou à un autre, risquent de passer de l'autre côté du Manche, est-ce qu'ils vont trouver ça aussi drôle? Et est-ce qu'ils vont trouver ça aussi bien que ça va être pour le droit? On ne peut pas être ça. Il n'y a aucun sens de justice. Et on voit la lâcheté de personnes qui, à longueur de journée, depuis qu'on est tout petit à l'école, jusqu'aux universités, à travers les médias, n'arrêtent pas de dire que nous défendons les droits de l'homme, la démocratie, la justice internationale, se révéler être de parfaits hypocrites quand ça concerne un ennemi des États-Unis ou quand ça concerne un pays étranger. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement grave. Ça montre à quel point nos propres sociétés sont malades, puisqu'on prêche des choses que nous ne pratiquons pas, qu'on n'a aucun courage. Je pense qu'il n'y a que le Premier ministre de Slovaquie, Fico, qui a dit que voilà, c'était qu'il ne suivait pas Trump dans cette démarche. Bon, il a dit avec une manière un peu plus diplomatique, mais c'est tout. Et donc, ça montre qu'en Union européenne aujourd'hui, on a beaucoup de couards et de personnes et qui sont en effet, comme tu disais, oh, des vassaux et qui se comportent comme des vassaux. Et d'ailleurs, les États-Unis nous voient comme des vassaux. J'aimerais rappeler juste un petit point à ce sujet. Quand Trump vient en Europe et qu'il dit je vais vous imposer 15% de droits de douane, personne n'a résisté. Ursula von der Leyen, elle s'est couchée, elle n'a rien dit. Il dit ensuite vous allez investir à hauteur de 700 milliards de dollars dans l'économie américaine. Dans l'économie américaine, on ne dit rien. Il dit vous allez acheter pour 650 milliards d'hydrocarbures américains. Je vous parle de l'été dernier, hein. On ne dit rien. On continue. Il dit aux pays membres, européens membres de l'OTAN, vous allez augmenter vos budgets militaires à hauteur de 5% de vos PIB. Tous s'alignent, à part l'Espagne. Et ça, il faut le noter. Quelle autre relation peut-on voir là qu'une relation de maître et de vassal? Et c'est ce que disait Jean-Jacques Urvoas, l'ancien garde des Sceaux français, qui disait que les États-Unis n'ont pas d'amis, ils ont des vassaux ou des cibles. Brzezinski, dans Le Grand Échiquier, dit que globalement, l'Ouest européen est un protectorat américain. Et on l'a bien vu, les commentaires de ces derniers jours de nos responsables politiques montrent à quel point nous sommes vassalisés et Trump en profite.
Harold, peut-être une réflexion sur cette réaction des dirigeants de l'Union
Sur la
européenne.
réaction des dirigeants. Alors, moi, je dirais que c'est très révélateur, en fait, parce que Nicolas dit si il nous arrive la même chose. Mais je pense qu'il raisonne aussi à l'envers, en se disant si on va dans le sens de Trump, il ne peut pas nous arriver la même chose. Donc, en fait, ils intériorisent déjà la loi du plus fort, en se disant de toute façon, de facto, Trump et les États-Unis sont en domination par rapport à nous. Donc, on a tout intérêt à se positionner. Et donc, on va y gagner. Je pense que là, c'est déjà une première erreur de calcul, comme s'il y avait une sorte, dans ce Far West généralisé, une sorte de bon deal, hein, et que finalement, Trump serait reconnaissant après, ou les États-Unis seraient reconnaissants. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi, ce qui est très frappant, hein, je vois par exemple la réaction du général Pierre de Villiers. Je le lis, hein. La France seule est incapable de mener une telle opération. Ça illustre mon désaccord en 2017 avec Emmanuel Macron. Face aux États-puissances, nous sommes désormais du côté des faibles après des décennies de délabrement de nos outils de défense. Mais en fait, derrière tout ça, il y a une sorte d'inconscient néocolonial. C'est le putsch d'Alger, quoi. C'est-à-dire que ces gens ont finalement une espèce de fantasme. Et c'est pour ça que ça marche. Parce qu'ils se disent, lui, il est puissant, en fait. Et donc, ils reconnaissent, au lieu de raisonner en termes juridiques et en termes de droit, ils raisonnent en termes de lui, il est capable de le faire. Nous étions capables de le faire, mais lui, il est capable de le faire, en fait. Il y a une espèce de nostalgie de la puissance coloniale française, quoi. Et c'est terrible, en fait. Et on voit, et c'est pour ça que il y a toutes ces réactions extrêmement, on y reviendra, mais extrêmement brutales, extrêmement violentes, parce qu'elles réactivent cet inconscient néocolonial, en fait, enfin, pour le dire très simplement. Il y a une sorte d'identification à Trump. Et on le voit avec Milei en Argentine, on le voit avec Meloni. Et cette logique d'identification, je la trouve terrible. Et le troisième point qu'a dit Nicolas, c'est que on accepte en fait une violence symbolique, une brutalité, sans rien dire. C'est incroyable. Il dit en fait, il y a en Amazonie, ben, il y a de l'eau douce, ben, c'est bon pour nous. Il y a du lithium, et on y va. Et on va même jusqu'à dire, dans certains médias qu'on pourra citer après, mais qu'il n'y est pas allé pour le pétrole. Bon, ce qui est complètement délirant, en fait, finalement. Donc moi, je trouve qu'il y a vraiment une soumission à la puissance et une soumission à la force. Hein, obéissez aux puissances, c'est du Rousseau, quoi. C'est-à-dire le fort impose son imaginaire de domination et de brutalité.
Nicolas.
Ah ben je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Harold. Là, c'est cette soumission et cette trahison des idées, cette trahison de nos idéaux affichés, on dit long sur les valeurs même que représente notre société et la faiblesse de notre société, puisque l'on est à fantasmer sur les méfaits, sur les crimes commis par un président étranger et qui ne risque rien. Je pense que ça s'en dit, c'est extrêmement grave pour notre société. Alors, on le savait, c'est pas nouveau, c'est un nouveau révélateur seulement de cette bassesse dans laquelle est tombée la caste dominante européenne aujourd'hui qui préfère être soumise à Trump et à Trump aux États-Unis en général, parce que Trump, dans 3 ans, il sera plus là. Et qui aujourd'hui se complaisent dans cette flambée de violence. Je le rappelle, le Venezuela, c'est qu'un maillon de plus dans une chaîne de guerre et d'attaque que les États-Unis ont menée depuis l'arrivée de Trump, alors que Trump avait promis qu'il ne ferait plus de guerre. J'ai revu plusieurs vidéos ces derniers jours, je les ai retrouvées, de Trump qui promet à ses électeurs que l'époque de l'ingérence américaine à l'étranger est terminée, qu'ils ne feront plus de guerre à l'étranger, et qu'aujourd'hui, ils allaient s'intéresser et qu'ils allaient se consacrer aux intérêts des Américains, à défendre les intérêts des Américains. Et c'est pour cela que les Américains ont voté pour lui. Et une fois élu, il fait tout le contraire. Et je peux me permettre juste ce petit rappel. C'est exactement ce que McKinley avait fait à la fin du 19e siècle. Il avait promis que les Américains ne cherchaient pas à étendre le territoire américain, mais que bah, dans la foulée, il attaquait l'Espagne, ils ont récupéré Cuba, ils ont récupéré Guam, ils ont récupéré les Philippines. Roosevelt avait promis, Wilson, pardon, pendant la Première Guerre mondiale, quand il a été réélu et qu'il a pris sa position en 1917, il a été élu sur un programme, He kept us out of the war. Il nous a sortis de la guerre. Les Américains ont voté majoritairement pour un président qui voulait protéger les Américains pour qu'ils n'entrent pas dans la Première Guerre mondiale. Il est élu un mois plus tard, les Américains entrent dans la Première Guerre mondiale. On a Roosevelt qui a fait la même chose pendant la Deuxième Guerre mondiale et Johnson qui avait promis que les Américains n'iraient jamais faire des milliers de kilomètres ou des milliers de miles. Pour aller se battre là où des jeunes Asiatiques pouvaient le faire à leur place, en parlant de la guerre du Vietnam. Et on sait très bien que les Américains sont entrés dans la guerre du Vietnam. Donc il y a cette permanence au sein de la classe politique américaine de mentir sciemment. Et il y a une grande naïveté de la part des Américains qui veulent voter pour des candidats anti-guerre et qui se retrouvent avec des présidents qui sont pro-guerre. Et on sait après, derrière, avec les livres de Bernays avec les commentaires de Lippmann, comment est-ce qu'une fois élu, il manipule la population, il les conditionne pour accepter la guerre parce que c'est pour la paix et la démocratie. Et là, maintenant, on ne parle même plus de ça, ça va être carrément pour la richesse. Donc, c'est presque même pire parce qu'à l'arrière, quand on se bat un peu pour des valeurs, on peut se dire c'est terrible, mais bon, peut-être que quelqu'un y gagnera à la fin. Là, c'est juste, on va faire la guerre pour être plus riche. On est dans là, vraiment, je pense, les bas-fonds de ce qu'un État peut devenir, quand c'est ça la thématistique d'Aristote, et devient le seul but des oligarques qui sont derrière Trump.
C'est vrai. Alors, il semblerait hein, que les premières réactions, d'ailleurs, hein, du côté de l'opinion publique américaine soient assez mauvaises, qu'une large majorité d'Américains, sinon les deux tiers, désapprouvent hein, jusqu'ici. Évidemment, tout ça va être vendu par l'appareil de propagande, mais jusqu'ici, désapprouvent hein, les méthodes employées au Venezuela. Et c'est vrai que Trump, finalement, a été élu sur des principes un peu contradictoires, parce que d'un côté, il y avait America First, avec l'idée hein, de privilégier enfin le peuple, les intérêts du peuple américain, et notamment son pouvoir d'achat, et puis ses problèmes de cohésion nationale hein, qui sont très, très importants. Mais il a été aussi élu comme peacemaker. Alors qu'il ne cesse de multiplier les interventions guerrières hein, depuis son élection, sans même parler du fait, on ne l'a pas rappelé, mais qu'il n'a toujours pas mis fin au conflit en Ukraine, contrairement à ce qu'il avait promis de faire très rapidement, sans même mentionner le fait, on ne l'a pas rappelé non plus depuis le début de la discussion, qu'il a passé le nouvel an avec un criminel de guerre, Benjamin Netanyahou, dans sa résidence de Floride, avec qui, au demeurant, il a possiblement préparé une action militaire encore plus importante et grave, finalement, pour l'équilibre mondial en Iran. Et c'est vrai que, on peut avoir le sentiment hein, d'une trahison totale des engagements qui ont été pris il n'y a pas si longtemps.
Beaucoup de personnes qui sont à la base du mouvement MAGA dénoncent cette dérive de Trump. On commence à dénoncer à partir du moment où il y avait l'intervention militaire de Trump en Iran. La base MAGA était ébranlée. Des personnes comme Joe Rogan, Tucker Carlson, David Smith, des soutiens puissants de Donald Trump ont dit, mais nous, on n'a pas voté pour ça. David Smith a même dit qu'il avait regretté, David Smith, qu'il regrettait d'avoir voté pour Trump. Ils se sont demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce président? On n'a pas voté pour ça. Ce n'est pas le rôle des Américains de régler des problèmes du Moyen-Orient. Oui, et s'il y a des problèmes à régler, il faut les régler de manière pacifique, mais ce n'est pas notre responsabilité. Et là, aujourd'hui, avec le Venezuela, j'ai passé un peu de temps à regarder ce que disaient des commentateurs plutôt de droite, plutôt MAGA, et beaucoup d'entre eux dénoncent exactement ce qu'a fait Trump. Alors évidemment, il y aura ce que les Américains appellent du jingoïsme, c'est-à-dire une espèce d'extrême nationalisme qu'essaie de véhiculer Trump à travers cette image Les États-Unis sont en première ligne contre le trafic de drogue, contre le communisme, contre les méchants qui veulent du mal à notre pays et une partie de la population qui va tomber dans le panneau. Mais parmi ceux qui ont pris les risques, parce que c'était quand même pas évident d'être supporter de Trump ces dernières années et qui ont vraiment cru que Trump allait être un candidat en faveur de la paix et qui allait respecter le droit international, ils sont tombés de haut. Et ça, il faut que Trump fasse attention parce que ces personnes vont se sentir trahies. Elles sont trahies. Et donc, elles vont avoir comportement dans les prochains mois. N'oublions pas que les élections midterm dans un an, je pense, Trump ne pourra plus compter sur elle pour le soutenir, ni lui, mais surtout ni ses candidats. Et une fois qu'il a plus la Chambre des représentants et qu'il a plus le Sénat, et ce n'est plus le même président qui est en place, et il faut qu'il fasse attention à ça. Et aujourd'hui, Trump, on a l'impression qu'il s'en fiche. De toute manière, il ne peut pas se représenter. Et très clairement, il sert la soupe à ce fameux état profond. Et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'il avait dit qu'il allait assécher le marigot, qu'il luttait contre l'état profond. Il n'a encore arrêté aucune personne de l'état profond. Il avait promis lors de son premier mandat qu'il allait enfermer Hillary Clinton. Il n'a rien fait. Toutes ces personnes qui étaient responsables des maux des Américains, qui avaient détourné l'argent pour faire la guerre, qui avaient ouvert les frontières à tous les immigrés, toutes ces personnes qui représentaient le mal pour Donald Trump, il a dit qu'une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il allait s'en occuper. Il n'a mis personne en prison. Il n'a attaqué aucun Américain, tous ces criminels. Il a même libéré l'ancien président de l'Honduras. Il a fait libérer l'été dernier, qui lui était impliqué dans une véritable histoire de trafic de drogue. Donc d'un côté, il dit qu'il va lutter contre la drogue, alors qu'il libère un président qui était impliqué dans le trafic de drogue. Il n'a rien fait pour emprisonner les responsables de l'état profond ou du marigot américain. Et il va s'attaquer à Maduro, le président du Venezuela, qui n'a rien fait contre les États-Unis. Et juste un dernier mot sur la drogue, c'est quand même un paradoxe que les Américains qui ont été très actifs dans le trafic de drogue, les agences de renseignement ont été très actives en Amérique latine dans le trafic de drogue. Il y a un livre de Webb qui s'appelle, j'ai oublié, c'est Darks, que le nom va me revenir, c'est Gary Webb, qui a écrit un livre super sur enfin, pas super passionnant, pas super, sur les façons dont les agences de renseignement américains se servaient des trafics en Amérique latine. Et maintenant, tout d'un coup, les Américains deviennent les parangons de justice et de la lutte contre le trafic de drogue en Amérique latine. C'est juste pas crédible un instant, sachant que des vrais États où il y a du trafic de drogue et qui exportent vers les États-Unis, c'est la Colombie, comme tu disais, c'est le Mexique. Et là, évidemment, là, les États-Unis n'agissent pas de la même manière. C'est l'hypocrisie.
Et par rapport, j'ai juste une question, Nicolas, par rapport à la CIA, c'est-à-dire que est-ce que au fond c'est une inflexion de Trump? Est-ce qu'il n'a pas réussi? C'est une hypothèse en fait. Est-ce qu'il n'a pas réussi finalement à faire ce qu'il pensait peut-être pouvoir faire? Et donc là, auquel cas il serait bloqué, il serait tenu, il y aurait une sorte de guerre des agences. Ou est-ce que finalement il part dans une sorte là de logique qui était en fait peut-être la sienne dès le début. Est-ce que, voilà, c'est une question, est-ce qu'il y a eu un changement de sa position, ou est-ce que dans le fond, il n'a jamais eu au fond véritablement la main pour faire ça?
Je savais qu'il ne serait pas le président idéal. J'espérais quand même personnellement qu'il allait bouger un peu plus les lignes cette fois-ci parce que il n'avait plus rien à perdre et qu'il avait l'air plus sincère. Et là, j'ai quand même un peu l'impression qu'il a été retourné à un moment. Il s'est passé quelque chose parce que quand il est arrivé, il met Gabbard, il met Kennedy dans son entourage, il prend des décrets qui sont en ligne avec ce qu'il avait promis aux Américains. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins il est cohérent par rapport à son programme. Et tout d'un coup, à partir de l'affaire Israël-Iran, là, il s'est passé quelque chose.
C'est quand même,
Et
ouais,
depuis, ça a dégénéré.
c'est quand même frappant de voir que Netanyahou est avec lui pour le nouvel an. Enfin, je veux dire, la concomitance d'événements est quand même assez impressionnante, en fait. Enfin, de l'extérieur, on peut se dire, c'est quand même très étonnant. Et on peut faire aussi l'hypothèse que le Venezuela, c'est une sorte de gage pris sur une crise potentielle qui pourrait y avoir s'il y a des attaques contre l'Iran, parce que ça pourrait avoir des conséquences sur la stabilité mondiale, extrêmement lourde. Est-ce que ça, c'est une hypothèse crédible ou pas?
Mais sur l'approvisionnement en pétrole.
Oui, bien sûr. On voit très bien qu'est-ce que les Américains ont en ligne de mire, ce sont des pays, des gros producteurs ou des pays qui ont des énormes réserves de pétrole. Ça, c'est les cibles des Américains. Ils ne visent pas des pays qui exportent de la drogue et qui ont que des bananes, si vous voulez, quoi. Donc, du coup, ça, aujourd'hui, ils font une fixation là-dessus. Ils veulent contrôler le pétrole parce qu'évidemment, c'est une façon de faire du mal à leurs concurrents, et notamment la Chine. La Chine, qui est-ce qui est en train de faire de l'ombre aux États-Unis en ce moment? C'est la Chine, d'un point de vue technologique, d'un point de vue puissance, d'un point de vue projection, d'un point de vue même diplomatique. La Chine, n'oublions pas, il y a 200 ans, était quasiment une des plus grandes puissances mondiales déjà. On pense que les Chinois, c'est une vieille nation. C'est une vieille nation qui veut juste renouer avec son passé aujourd'hui et qui font peur aux États-Unis. Et donc, qui n'ont mené aucune guerre pour en arriver là. Ils n'ont pas bombardé d'autres pays, ils n'ont pas mené des opérations d'ingérence, ils n'ont pas fait des trafics dans ces pays-là. Je ne dis pas que tous les Chinois sont des saints, mais je dis juste qu'il y a quand même une différence de modèle dans le développement. Et aujourd'hui, le fait que Trump s'attaque à des pays qui ont du pétrole est clairement un signe qu'il envoie au reste du monde. Parce que si vous tenez le pétrole, vous tenez le sang aujourd'hui encore des économies mondiales. Et cette collusion qu'il peut y avoir d'intérêts de pays proches de Trump pour profiter de ce combat pour les hydrocarbures, pour défendre leurs propres intérêts, est évidente. Il y a des pays qui vont s'aligner sur Trump parce que, de nouveau, ils vont être du bon côté du manche. Et c'est assez détestable parce qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un va se réveiller. Ils vont pas pouvoir continuer à faire ça ad vitam aeternam. N'oublions pas que l'histoire des États-Unis, c'est aussi des guerres qui se terminent en général mal. Corée, Vietnam, Irak, Afghanistan, sont pas des victoires militaires pour les Américains. Donc,
J'aimerais savoir, Nicolas, comment tu vois la suite là, pour le Venezuela, parce que effectivement, je le rappelais tout à l'heure, la vice-présidente hein, de Maduro, Delcy Rodriguez, assure l'intérim en lien avec les États-Unis. C'est un petit peu étrange d'ailleurs, hein, parce qu'elle multiplie les déclarations fracassantes en faveur de Maduro, présenté comme un héros, etc. Et en même temps, Trump affirme qu'il est en lien direct téléphonique avec elle, permanent, etc. Donc, c'est un petit peu curieux. Est-ce qu'un fantoche, une marionnette, va être placée à la tête du pays au terme de ces 90 jours d'intérim? Est-ce qu'on peut avoir des troubles intérieurs très importants, une espèce de guerre civile, comme on a pu en voir éclater dans beaucoup de pays où les États-Unis ont opéré des changements de régime, hein, je pense à l'Irak, la Libye, l'Afghanistan, et auparavant, bien avant le Vietnam, etc. À quoi ça va ressembler selon toi, d'après ta connaissance de ce type d'intervention?
Alors, je complète juste parce que c'est une question de crise qui est intéressante, qui va dans ce sens, hein. Que pensent les Vénézuéliens en fait finalement de la situation et comment on peut envisager l'évolution future, quoi?
On a vu dans des médias, en tout cas pas mal sur les réseaux sociaux, des personnes qui nous montraient des vidéos de Venezuela de la rue en liesse, très content de la chute de Maduro. Et puis on s'est aperçu quelques heures après que c'était des supporters de foot filmés il y a plusieurs années qui avaient inondé les rues de Caracas après une victoire. Donc, et qu'il y a eu des manifestations, ça c'est clair et net. En revanche, j'ai vu aujourd'hui sur des dépêches de médias occidentaux de Vénézuéliens dans la rue qui étaient très mécontents. Je pense que les Vénézuéliens sont choqués parce qu'eux-mêmes ne s'attendaient pas à ça, même s'ils s'attendaient à une intervention américaine sur leur pays. Je pense que beaucoup de personnes parlent. On est dans un terreau qui est extrêmement instable. Beaucoup de choses peuvent arriver. Est-ce qu'il y a eu des traîtres du côté vénézuélien? C'est tout à fait possible. Où sont ces traîtres? Est-ce qu'ils sont dans l'administration? Est-ce qu'ils sont dans l'armée? Est-ce qu'ils sont ailleurs? Ça, on ne sait pas. En revanche, c'est certain que je ne pense pas que Trump va pouvoir régler ça à distance sans soit avoir payé du monde sur place, ça c'est clair et net, donc c'est l'hypothèse de la traîtrise, soit des personnes qui se rendent compte de ce qui est en train de se produire à Caracas et qui ont les moyens politiques et ou militaires pour reprendre la situation en main. Parce qu'on pourrait très bien imaginer que Trump, lui, place ses hommes ou femmes liges à la tête de Caracas, que ces personnes gèrent, fassent la continuation de Maduro et qui en même temps juste ouvrent les vannes aux entreprises américaines, aux multinationales, pour reprendre le pétrole, pour exploiter le gaz. C'est tout à fait possible. Ce serait quelque chose d'assez nouveau parce qu'en général, les Américains exploite toutes les ressources, après avoir complètement bombardé le pays. Là, l'originalité de Trump, ce serait peut-être de s'accaparer les ressources, sans bombarder les personnes et juste en stipendiant un peu plus que d'habitude des personnes au pouvoir. Maintenant, je disais aussi, attention, le Venezuela est un très gros exportateur de pétrole envers la Chine et je ne pense pas que la Chine va laisser du jour au lendemain cette ressource lui échapper, surtout si on pense que l'autre grand exportateur de pétrole vers la Chine, c'est l'Iran. La Chine va se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Donc, comment est-ce qu'elle va sortir son épingle du jeu? Quelles sont les mesures de rétorsion qu'elle peut appliquer contre les États-Unis? Ou bien est-ce qu'elle négocie quelque chose avec les États-Unis en ce moment? Il va y avoir forcément énormément de négociations. Et puis, si les négociations n'aboutissent pas, il y aura des tensions qui peuvent se transformer soit en guerre civile, ça c'est tout à fait possible, ou en guerre par proxy pour l'instant, parce que les États sont peut-être pas encore prêts, ou alors en guerre frontale, si la Chine n'a plus de pétrole. Elle n'aura pas de choix que d'entrer en guerre. Vous voyez, ça sert, on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais je dis, si on continue à couper toutes les ressources d'hydrocarbures de la Chine, au bout d'un moment, elle va être obligée de réagir. Et ça aura aussi des impacts sur le prix du pétrole au niveau mondial. Vous imaginez les États-Unis qui ont quasiment déjà les plus grandes réserves, enfin, qui ont parmi les plus grandes réserves de pétrole au monde, s'ils récupèrent les 300 milliards, je pense, de barils du Venezuela, ils vont pouvoir faire peut-être pas la pluie beau temps, mais ils vont pouvoir avoir un impact très important sur le marché du pétrole, ce qui ne va pas arranger d'autres nations qui sont exportatrices de pétrole. Donc, il y aura forcément des conséquences qui, à mon avis, seront graves, parce que je ne pense pas que Trump a tout scellé avec les représentants des populations des Vénézuéliens, plus les autres nations, avant de mener son opération. Je pense qu'il fait des tractations, qu'il y a beaucoup plus de personnes impliquées dedans qu'on le pense, certainement d'autres États également, mais que c'est tout sauf réglé.
C'est ça qui est un peu troublant, hein, c'est qu'au niveau, l'opération militaire elle-même était foudroyante et millimétrée. Et là, on a l'impression qu'on se retrouve dans une situation étrange de changement de régime, mais sans changer de régime, et d'impréparation finalement au niveau politique, puisque dans un premier temps, Trump a même parlé dans sa première conférence de presse de gouverner directement le pays, hein, il a dit we are going to run the country. Chose bizarre parce que le Venezuela, bah, ce n'est pas un timbre-poste, hein, c'est un immense pays, c'est un pays plus de deux fois grand comme la France, donc ça voudrait dire envoyer des troupes sur place, etc. Donc c'est un petit peu étrange. Et par ailleurs, l'opposante numéro un à Maduro, hein, qui est complètement vendue, voilà,
Prix Nobel de la
et
paix, comme
Nobel, voilà.
le Nobel de la paix, a été immédiatement retoqué par Trump lui-même, hein,
Elle
dont elle
est
cirait
même
les
allée plus
fonds.
loin puisqu'elle a dit qu'elle pouvait même échanger son prix Nobel pour être remise en scène. Et il y a même des européistes aujourd'hui, là aujourd'hui, qui disent non mais c'est pas possible. Ils la soutenaient en disant c'est formidable, quelle opposante, et aujourd'hui elle est complètement givrée, quoi. Les mêmes qui la soutenaient, donc c'est le en même temps UE, quoi.
Oui, c'est ça.
Donc, question du chat à cet égard. Hein. La présidente par intérim Delcy Rodriguez pourrait-elle conduire une politique de collaboration avec les multinationales pétrolières américaines?
Alors, si elle poursuit le combat de son père, de la révolution bolivarienne, non, c'est impossible. Mais non, il faut se mettre aussi à sa place. Elle doit avoir une pression complètement folle. Et je pense que les Américains lui ont. Et d'ailleurs, Trump a dit que si elle n'obtempérait pas, il y a encore pire qui pouvait lui arriver. Donc, elle, est-ce qu'elle est assez solide? Ça, je ne sais pas. Pour maintenir le cap et dire, nous sommes dans une situation compliquée, il va falloir qu'on gère avec un pays qui a séquestré notre président, tout en faisant tourner l'économie comme normal, ou alors est-ce qu'elle va négocier en disant, bon, qu'est-ce que vous voulez? On va vous donner quelques puits de pétrole, vous nous laissez tranquille. Elle peut négocier, sa situation personnelle est extrêmement difficile. Et on a vu que des pays qui résistaient, on peut penser à la Yougoslavie, à l'Irak, au bout d'un moment, la Libye, finissent par s'attirer les foudres des bombardements des Américains. Donc c'est une situation particulière. Je pense qu'elle peut résister, mais c'est clairement pas facile pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. C'est quand même les États-Unis en face, la première puissance mondiale, des bombardiers tout autour, avec des satellites au-dessus du pays qui écoutent tout, qui voient tout, qui ont été capables de rentrer dans le palais présidentiel et de shipper le président. C'est fort, ça fait peur. Donc, est-ce qu'elle-même est assez bien entourée? Est-ce que Maduro, je pense, il a dû voir le coup venir, a laissé des personnes en place qui étaient assez fiables? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Mais une négociation n'est pas à exclure, c'est possible.
Autre question venue du chat, Nicolas. Trouvez-vous vraisemblable les déclarations de Trump concernant le fait d'envahir le Groenland, enfin d'envahir en tout cas, là encore, de spolier ses richesses? Effectivement, qu'est-ce qui se passerait, je prolonge la question, si les États-Unis mettaient la main sur le Groenland, qui appartient à un pays de l'OTAN? Est-ce que ça signifierait d'ailleurs la fin immédiate de l'OTAN qui est déjà subclaquant.
Bah, moi, malheureusement, je pense que s'il le faisait, rien ne se passerait. C'est ça ce qui est terrible. C'est ça ce qui est terrible. On ferait, c'est comme quand l'Azerbaïdjan a envahi le Haut-Karabakh, l'Artsakh. Emmanuel Macron a poussé des cris d'orfraie, toute l'Union européenne a dit que c'était terrible, et puis 150 000 Arméniens ont été comment dire, virés de leur propre terre. Et puis après, on a signé un contrat de gaz ou de pétrole avec l'Azerbaïdjan. Et donc demain, je pense que si Donald Trump faisait la même chose, eh bien on aurait les mêmes cris d'orfraie dans toutes les capitales européennes. C'est terrible, il n'a pas le droit de faire ça. Et Trump nous regarderait de haut, il sortirait son big stick, hein, celui de Roosevelt, et tout le monde retournerait à la niche. C'est ce qu'on ferait. Mais non, je pense que le reste du monde ne va pas laisser Donald Trump faire un grand risque tout seul à lui-même et de se récupérer toutes les terres qu'il veut, parce que lui, il dit qu'il veut l'hémisphère occidental. Donc, en gros, le Groenland fait partie c'est juste pour le côté géographique, ça fait partie de la plaque tectonique américaine, donc le Groenland. Donc, lui, il dit qu'il veut les Amériques. Et c'est possible qu'il s'arrêtera là, mais c'est possible qu'il s'arrête pas là du tout. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a le Groenland et qu'il se dise, bah, attendez, le Groenland, c'est sympa, je vais prendre le Danemark. Personne ne dit rien pour le Groenland et le Danemark. Allez, je vais prendre le Luxembourg, la Belgique, les pays scandinaves. Enfin, il va se retrouver. Là, il va se retrouver sur la frontière russe. Et là, peut-être que les Russes, ils vont se dire, bon, écoutez, là, vous êtes allé un peu trop loin. Mais là, aujourd'hui, tant qu'il gagne, il joue. Donc, il y a personne, il y a aucune, même les autres nations, même si Moscou et Pékin ont vociféré également, personne n'a appliqué de sanctions. Il y a un peu un jeu de dupes là-dedans aussi. Hein. On voit très bien que les Américains ont la puissance et la volonté. Il est même possible qu'il y ait des tractations entre eux. Hein. Peut-être qu'ils veulent se partager le monde. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible aussi, de se dire qu'aujourd'hui, dans un monde multipolaire qui émerge, plutôt que de se faire la guerre, on va avoir des zones d'influence. C'est tout à fait possible, sauf que la façon diplomatique, culturelle, historique de le faire, en tout cas la façon un peu plus respectable, c'était par de l'influence, c'était par des partenariats, c'était par ce genre de choses-là. Trump, je pense pas que ça soit son point fort. Lui, il prend. Et lui, il va peut-être s'arrêter au Groenland, on n'en sait rien, mais non, l'Europe ne fera rien. Évidemment, ça sera la fin de l'OTAN, ça ne voudra plus rien dire. L'OTAN, déjà, Trump avait dit il y a quelques années encore que ça ne servait à rien. Même Macron avait dit qu'elle était en état de quasiment mort-né. Alors ils ont cru que l'OTAN allait se ressusciter parce qu'ils ont récupéré la Finlande et je ne sais plus quel autre pays d'ailleurs, et que du coup demain l'OTAN était renforcée. Mais comment voulez-vous que l'OTAN se renforce quand vous avez le principal membre de l'OTAN qui pèse 80% du budget et qui récupère le territoire d'un autre pays de l'OTAN? Et je rappelle que la Turquie a déjà fait ça avec Chypre, et les autres membres de l'OTAN ne disent rien. Donc,
Pour prolonger ta réflexion, Nicolas, tu dis on va peut-être passer à un monde hein, de sphère d'influence hein, qui sera plus régi par la boussole du droit international comme il l'était depuis, de toute proportion gardée, hein, depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit la zone d'influence américaine, ce qu'elle peut être, la zone chinoise, ce qu'elle peut être, la zone russe, ce qu'elle peut être, mais la France et l'Europe,
Rien.
qui devient-on là-dedans?
Rien. Rien. Parce que pourquoi? Alors aujourd'hui, parce qu'on ne s'est pas projeté. Le problème majeur, c'est que tout ce qu'on voit là, à vrai dire, une partie était prévisible. Ce qui est choquant, c'est la manière de faire de Trump. Et que les Américains ont mené tout au long du XXe siècle, entre la fin du XIXe et la fin du XXe siècle, ont mené une opération d'ingérence quasiment tous les 2 ans en Amérique latine. Ils ont ruiné l'Amérique latine. Ils ont tout fait pour occuper les différents pays, pour organiser des révolutions de couleur, pour faire tomber des présidents élus démocratiquement. Qu'ils continuent de le faire n'est pas surprenant. Qu'ils le fassent comme Trump l'a fait, ça c'est une innovation. Mais le reste, non. Donc, on voyait ce qui se passait. On voyait que la Russie était en train de renaître de ses cendres et qu'elle ne comptait pas être un acteur de seconde zone. On voyait que la Chine était en train de reconstruire son économie, était en train de lutter contre la pauvreté, était en train de développer ses routes de la soie. Et nous, on regardait tout ça, les bras croisés. Et nous, notre seule solution, c'était de dire, ben, l'Europe va nous sauver. L'Union européenne est là. Mais qu'est-ce que l'Union européenne a fait pendant que les Américains étaient en train de s'armer, de s'ingérer dans les différents pays? On était en train de les aider. Voilà ce qu'on a fait. On a participé à des bombardements illégaux de l'OTAN dans le monde entier, et on a laissé clairement les Américains vendre leur armement au reste de l'Europe. Aujourd'hui, un pays comme la Pologne, je le répète à chaque fois, parce que ça montre l'ineptie du concept même de l'Europe. La Pologne est récipiendaire net d'aide de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle reçoit plus d'argent qu'elle en donne à l'Union européenne, et avec ça, elle achète des centrales nucléaires américaines, elle achète de l'armement américain. Et la France, elle vend des centrales nucléaires, elle vend de l'armement, mais les Polonais préfèrent acheter américain. Voilà la construction européenne aujourd'hui. Où est-ce que l'Union européenne est en avance sur d'un point de vue technologique, d'un point de vue éducation, d'un point de vue santé, d'un point de vue défense, d'un point de vue sécurité? Nulle part. Et pendant qu'on était en train de certainement de jouir, de croire qu'on était les plus intelligents, les plus beaux, les meilleurs, qu'on donnait des leçons au monde entier, ben le reste du monde s'est dit non. Les Américains, ils ont poursuivi leur chemin. Nikhil Novi obsolète, et les Russes et les Chinois sont sortis, les Indes sont sortis, mais non, en Afrique, il y a des pays qui veulent s'en sortir aujourd'hui, dans le Sub-Sahel, et ça, nous, on est en train, alors même s'ils ne sont pas au même niveau que les Russes et les Chinois, il y a cette volonté de se projeter, de se construire et de se développer, que nous n'avons pas. Donc là, on est vraiment dans une très mauvaise situation. Alors, je ne vais pas être 100% pessimiste, on a des ressources, on a des personnes de très grande qualité, mais je pense qu'aujourd'hui, l'Union européenne a tiré la France vers le bas. J'ai regardé les statistiques il y a quelques jours. La France était le deuxième pays exportateur de produits agricoles au monde. On est aujourd'hui cinquième. On était cinquième puissance économique mondiale. On est aujourd'hui dixième. On n'arrête pas de chuter. On importe des produits agricoles et on n'arrive plus à nourrir nos propres paysans. Et l'Union européenne veut signer un accord avec le Mercosur, avec des pays d'Amérique latine qui vont recevoir leurs ordres de Washington. Vous voyez le monde dans lequel on est, ça c'est l'Union européenne qui nous fait ça. Et l'Union européenne aujourd'hui, les seules propositions qu'elle nous fait, c'est d'avancer vers la mort. C'est la guerre ou l'euthanasie. Voilà les propositions aujourd'hui de la France ou de l'Union européenne. Et ça, c'est forcément extrêmement mauvais pour nous. Donc il faut se ressaisir. Moi, je pense que ça ne peut passer que par une reprise de notre souveraineté. Toutes
Alors,
les nations là dont on parle,
je profite de ce
elles sont.
moment pour une page de publicité.
Okay.
Peut-être que ça apparaît à l'envers à l'écran, malheureusement. Voilà, donc parce que Nicolas sort
Non, non,
un
c'est
livre.
bon, c'est bon.
C'est vrai? Moi, je l'ai en miroir, je l'ai à l'envers.
On le voit bien. Bon.
Nicolas sort un livre fin janvier, le 21 janvier, je ne vais pas te
Oui.
dire de bêtises. Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront aux éditions des CIRT. Donc, évidemment, Nicolas, on te réinvitera hein, parce que c'est un tout autre sujet extrêmement important hein, qui nous tient évidemment à cœur sur QG, la récupération de la souveraineté française. Tu es aussi un spécialiste du conflit ukrainien. Tu as écrit un livre, hein, Le chaos ukrainien, sur le sujet. J'aimerais te poser la question, comment est-ce que les Russes voient ce qui se passe depuis le début d'année? De quel œil le regardent-ils hein? On a vu des déclarations extrêmement violentes de l'ancien président Medvedev, mais bon, on sait qu'il est coutumier des déclarations fracassantes, hein, c'est un petit peu le chien fou du régime. Enfin, c'est extrêmement violent sur, je cite, Trump et sa bande. Comment est-ce que les Russes voient ce qu'ont fait les États-Unis et comment est-ce que ces événements vont impacter les négociations de paix qui étaient en cours? Je rappelle justement Harold tout à l'heure. Parler du général Pierre de Villiers, celui-ci, interrogé hier sur la télévision française, disait que l'Ukraine n'était plus en mesure de gagner militairement cette guerre, qu'il fallait l'acter et sauver des vies, désormais des vies ukrainiennes,
Il est temps, il est temps.
dès que possible. De quelle façon ces événements au Venezuela et le changement d'équilibre entre les États-Unis et la Russie qu'ils provoquent vont impacter ces négociations.
Alors, il y a plusieurs sujets dans ce sujet. D'abord, évidemment, les Russes voient cette action américaine comme une action traditionnelle menée par les États-Unis. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est la manière qui change, mais la grille de lecture russe, c'est une grille de lecture qui voit très clairement que les Américains s'ingèrent dans le monde entier. Les Américains ont 700 bases dans le monde entier et ce n'est pas pour apporter la paix et des bouquets de roses au reste de la population. Donc ça, aujourd'hui, les Russes le savent. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Je pense qu'ils comprennent vraiment cette volonté de Donald Trump de récupérer tout le continent américain et tout ce qu'il y a sur la plaque tectonique des Amériques. Les Russes ont quand même montré qu'ils n'étaient pas dociles. C'est-à-dire que dans leur discussion avec Trump, à aucun moment est-ce qu'ils se sont dit on va se laisser intimider. Trump a dit qu'il réglerait le problème de l'Ukraine en 24 heures. 12 mois plus tard, on est quasiment on a un petit peu progressé. Ces derniers temps, on a vu qu'il y a eu des progrès entre Moscou et Washington. Pour autant, les Russes sont en train de progresser militairement, mais ces derniers mois, ils ont fait leur plus grand gain depuis 2022, quasiment, enfin, depuis 2023, pardon. Et la politique de Zelensky. Donc là, les prix sont en train de progresser. Et je pense que les Russes n'ont pas envie de s'arrêter. Aujourd'hui, ils veulent récupérer le Donbass. On voit qu'ils ont pas encore récupéré les quatre régions qu'ils réclament. Ils pilonnent Odessa et je pense qu'ils sont très intéressés par Odessa et que peut-être quelque part, ils vont pas s'arrêter. Pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient? Les Américains, en même temps, malgré des discours de paix et de fin de guerre, n'oublions pas que c'est quasiment l'acteur principal de la région. C'est qu'il ne peut rien se passer à Kiev sans que Washington soit tenu au courant. Les Américains ont cessé d'aider en grande partie financièrement et militairement l'Ukraine, mais ils ont envoyé la charge sur les Européens. Donc nous payons, nous donnons de l'argent à Kiev pour qu'elle achète de l'armement américain. Et donc voilà, Kiev a moins d'argent qu'avant, et puis surtout, ils ont moins de soldats. N'oublions pas que l'âge moyen du soldat ukrainien aujourd'hui est de plus d'une quarantaine d'années, que ce sont des conscrits, alors que du côté russe, ce sont essentiellement en grande partie des professionnels, des personnes qui sont inscrites dans l'armée, qui n'ont pas été prises sur la rue, à qui on a dit va te battre. Et aujourd'hui, l'état d'esprit à Kiev sont du dessous. Les Ukrainiens fuient le pays massivement. Il n'y a pas de succès militaire depuis très très longtemps. Et on a bien vu que Zelensky est très clairement la marionnette de Trump. Zelensky, un jour, c'est l'ami de Trump, le lendemain, c'est l'ennemi. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'en nommant Boudounov à la place de Yermak, en proche conseiller de Zelensky, eh bien, on a quand même des personnes qui sont proches de la CIA, qui sont plutôt du côté des faucons de guerre, qui sont prêts à tout cramer jusqu'au dernier Ukrainien pour gagner, avec des personnes qui ont fréquenté ou qui sont très proches des milieux vraiment néo-nazis ukrainiens. Il y a différentes personnes qui sont dans l'entourage de Zelensky aujourd'hui qui ne vont pas dans le sens de la paix, et on sait que ces personnes ne pourraient pas être nommées sans que Washington soit d'accord. Et on a appris par le New York Times il y a peu de temps que quelques-unes des dernières cibles qui avaient été visées par l'armée ukrainienne et qui avaient fait mal à la Russie avaient été permises par la CIA. Donc il y a encore ce double discours américain. Et les Russes commencent, au bout d'un moment, je pense qu'ils vont dire, bah, écoutez, arrêtez votre double discours, ils vont aller se battre jusqu'au bout, parce que pour eux, c'est existentiel. C'est leur frontière, ils ne peuvent pas avoir une armée ennemie sur leur frontière. Parce qu'on sait très bien, quand on regarde l'avancement de l'OTAN en Europe, vous regardez la carte de 1945, comment est-ce que ça a évolué, vous regardez la carte de ces dernières années, les exercices militaires que l'OTAN effectuait avant même 2022 sur la frontière russe, les Russes savent très bien quel est l'objectif des Américains. Et quand on voit ce qui vient de se passer au Venezuela, ça donne raison aux Russes de se dire, je ne veux pas du tout qu'il y ait des armées américaines sur ma frontière, sur ces grandes plaines d'Ukraine, par lesquelles sont passées déjà dans l'histoire de la Russie les armées suédoises, polonaises, lituaniennes, allemandes, deux fois, françaises même. Ils doivent faire attention. Donc, je pense qu'il y a une espèce de bras de fer, que les Russes continuent, ils discutent poliment, mais qu'ils ont envie d'aller jusqu'au bout de leurs objectifs militaires, en tout cas pour les quatre régions, et je pense Odessa aussi, et que peut-être même qu'il y a des tractations. Peut-être que vraiment on va dans cette direction d'un monde divisé. Je pense clairement que c'est trop fort pour les Américains, que peut-être Trump pense ça, mais que l'État profond américain ne voudra jamais laisser un concurrent, qu'il soit russe, qu'il soit chinois, qu'il soit indien. C'est trop fort pour les Américains. Ils veulent être l'hégémon, cette cité sur la colline, hein, pour reprendre cette expression biblique, mais qui avait été reprise par le premier gouverneur du Massachusetts, John Winthrop, qui disait, voilà, le monde entier doit nous voir comme ça, nous sommes le nouvel Israël, nous sommes, Washington avait dit, le premier président américain, que les États-Unis étaient un empire enfant, et Chomsky disait que parler de l'empire américain, c'était comme de parler de triangle triangulaire. Et cette vision impériale américaine, elle est vraiment ancrée dans l'État, dans l'administration américaine. Et je pense qu'il y aura toujours, d'une manière directe ou indirecte, des conflits avec des rivaux qui sont aujourd'hui beaucoup plus sérieux à un moment où l'Amérique est paradoxalement assez faible. Malgré ses coups d'éclat, la situation économique américaine est toujours très mauvaise. Ils ont un déficit, ils sont extrêmement endettés et ils ont ce problème majeur qu'ils n'avaient pas dans le passé, des Américains qui sont extrêmement divisés entre eux.
Alors effectivement, je voulais qu'on en parle parce que tout ça est d'ailleurs résumé dans le titre hein, qu'on avait choisi pour cette discussion, hein, puisqu'on parlait de l'ensauvagement d'un empire en déclin. Et c'est vrai que, pour rappeler ta thèse globale, Nicolas, à ceux qui nous écoutent, elle est assez proche de celle d'un Emmanuel Todd, puisque tu considères que les États-Unis sont entrés dans une phase de déclin impérial, enfin étaient entrés jusqu'ici hein, dans une phase de déclin impérial quasiment irréversible, du fait de leur désindustrialisation, de leur financiarisation extrême et aussi de leur hyperpuissance militaire en trompe-l'œil, puisque jusqu'ici, ils ne gagnaient plus aucune guerre, hein. Et d'ailleurs, là, il ne s'agit pas, à vrai dire, au Venezuela d'une guerre, mais d'une intervention d'exfiltration typique CIA. Voilà, même si elle est très spectaculaire et qu'elle touche un président en exercice, il s'agit d'un individu, il ne s'agit pas d'une guerre au sens propre du terme. Est-ce que tu vois justement dans la brutalisation du spectacle à laquelle on insiste, est-ce que tu vois là un symptôme même d'une espèce de tentative de sursaut, de puissance qui se cambre face à un monde multipolaire qu'elle ne peut pas accepter, comme tu viens de le dire, parce que les États-Unis n'acceptent pas de ne plus être le seul vrai leader mondial. Est-ce que c'est ça qui est en train d'émerger à travers toute cette violence à laquelle on assiste?
Oui, je pense très clairement, comme le dit Emmanuel Todd, que l'Amérique demeure un empire qui est en chute. Un des grands spécialistes de l'histoire des États-Unis, le Britannique Paul Kennedy, avait mis en garde les Américains dans les années 80 sur les conséquences qu'aurait la surextension impériale. C'est à force de s'étendre dans le monde entier, les États-Unis, comme tous les empires, l'Amérique finirait par chuter. Elle avait ouvert une porte avec Donald Trump, paradoxalement, pour un moment on va dire, de répit, où Trump aurait pu se focaliser sur les États-Unis, sur les problèmes, de société, sur la natalité, sur la santé, sur les infrastructures, sur l'éducation, pour relancer l'empire américain. Mais il fallait investir un peu. Au lieu de faire ça, il continue d'utiliser les mêmes méthodes que ses prédécesseurs, avec une autre forme de communication, à un moment où les États-Unis sont quand même affaibli. On voit aujourd'hui, moi je lis la presse chinoise, pas en chinois, en anglais régulièrement, quand on voit les avancées technologiques réalisées par les Chinois aujourd'hui, nous Européens on est très très loin, mais les Américains aussi. Il y a une enquête qui est assez intéressante qu'on peut suivre, qui est une enquête australienne qui s'appelle ASPI, ASPI, et qui recense régulièrement dans le temps les pays qui dominent des technologies de pointe dont nos économies vont avoir besoin. Si vous regardez cette étude, il y a une vingtaine d'années, les Américains, ils étaient en tête partout. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui sont en tête partout. Les Américains sont derrière et il y a quelques pays européens qui se placent dans le trio tête, mais ils sont en général quand même très, très loin. Donc, les Américains ont des indicateurs, on va dire, socio-économiques qui sont en train de s'aggraver. Et ils pensent qu'ils vont pouvoir récupérer ça en faisant la guerre. Là, ce que montre Trump quand il dit je veux les puits de pétrole, c'est que très clairement, il a besoin d'argent. Donc, ce qui les intéresse là, c'est l'argent et l'affaiblissement de leurs concurrents pour faire en sorte qu'ils n'aient pas accès aux ressources. Justement, en privant les Chinois d'hydrocarbures bon marché, eh bien, c'est la seule réaction. Si vous voulez, ils ne sont pas en train de rayonner par leur gloire, par leur savoir-faire. C'était des choses qu'ils ont su faire dans le passé. Les Américains ont toujours été très, très bons dans la recherche et le développement, dans la technologie. Et là, ils sont en train de se faire damer le pion. Et au lieu de prendre le temps que Trump avait promis à ses électeurs pour investir dans la recherche et le développement, pour investir dans l'éducation, former des ingénieurs, entre autres, eh bien, il va piquer la tirelire du voisin pour faire mal à son concurrent. Et ça, c'est un signe d'un empire qui est instable, qui n'est pas sûr et qui poursuit une méthode qui l'a conduit à la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui. Si les Américains votent pour Donald Trump, c'est que concrètement, la société quand même est un peu malade. Elle ne va pas bien. Et Trump avait promis un nouveau modèle et il prend l'ancien. Donc je ne pense pas que ça va marcher.
Harold.
Ouais, c'est comme si, à t'écouter, hein, c'est comme si le désir hégémonique en fait des Américains prend le pas sur tout et qu'ils sont pris dans cette espèce de fuite en avant de puissance et d'hégémonie, incapables en fait finalement de faire, y compris des choses raisonnables pour leur propre peuple en fait finalement, parce qu'on pourrait certains d'ailleurs ont cru, même en France, hein, ont cru, sont dit finalement, bon, bah, Trump, c'est le retour à une forme, voilà, de réflexion un peu souveraine sur les États-Unis, mais en fait, non, ils retombent finalement toujours, éternellement dans leur vieux démon. Ils ont besoin d'un ennemi, ils ont besoin de la guerre, ils ont besoin de ce mythe en quelque sorte extraordinaire. Après, Gabriel Zucman rappelle quand même une chose, on l'a pas redit, tu as parlé de 300 milliards de barils, hein, de réserves. Il faut mesurer que c'est quand même l'équivalent de l'Arabie Saoudite, hein, des Émirats, de la Libye, des États-Unis et du Koweït. Hein. Tout ça réuni, c'est colossal, hein, c'est 150 milliards en fait de dollars de bénéfices, de gains. Et il rappelle aussi, c'est très intéressant, que dans les années 50, dans les années 50-55, en fait, c'était 12% en fait du PIB du Venezuela qui partait sur les actionnaires américains, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc quand on dit c'est pas le pétrole, non, 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 il y a vraiment un enjeu, la monétaire et les pétrodollars. Donc ça, c'est une faute en fait d'analyse, quoi.
C'est clair que c'est pour le pétrole et le fait qu'il soit désespéré. Parce que pour faire une opération comme ça, ils pourraient le faire dans le temps, organiser. Ils ne cachent même plus leur jeu. C'est qu'ils sont. Il y a quand même un côté panique derrière tout ça. Les États-Unis ont toujours, avec le temps, travaillé pour renverser des gouvernements. Ce qu'ils viennent de faire au Venezuela, ils l'ont fait avec Mossadegh en Iran au début des années 50. Exactement la même chose. Mais ils ont pris du temps, ils ont soudoyé des personnes, ils ont stipendié des rebelles, ils ont renversé Mossadegh, dont le seul crime avait été de privatiser les puits de pétrole iraniens qu'ils voulaient rendre aux Iraniens, parce que c'est exploité par des multinationales essentiellement britanniques et qui gardaient les bénéfices pour eux, parce que c'est ça le drame. C'est ça le drame, c'est que du coup, la richesse appartient au peuple et ce sont des nations étrangères, même pas des nations étrangères, des multinationales étrangères qui en profitent. Et les États-Unis avaient ourdi une révolte pour faire chuter Mossadegh dans le temps. Là, ils n'ont même pas pris le temps. Tout de suite, ils se sont attaqués à Maduro. C'est vrai qu'il y avait eu quand même une politique de sanctions avant, mais parce qu'on sent un petit peu un vent de panique. N'oublions pas que les Américains, sur la scène internationale, ne sont plus la puissance qu'ils étaient avant. L'Ukraine est une catastrophe. Pour les États-Unis, ils sont à l'origine de cette situation. Ils n'ont pas réussi, avec toute l'aide qu'ils ont apportée, toute l'aide de nombreux pays, la plupart des pays de l'OTAN, à l'Ukraine, ils n'ont pas réussi à battre l'armée russe. Et aujourd'hui, bah, les Chinois, avec leur nouvelle route de la soie, sont en train de créer de la richesse dans le monde sans armes. Et d'ailleurs, JD Vance, pareil, hein, il faudrait prendre des enregistrements des candidats avant et après avoir été élus. JD Vance disait pendant la campagne, mais c'est incroyable, il faut vraiment qu'on arrête cette campagne de bombes et de guerre. Regardez les Chinois, ils sont en train de se développer parce qu'ils construisent des ponts, au sens figuré comme littéral. Voilà ce que font les Chinois. Et ils étaient conscients de ça. Mais sauf qu'eux, ils se précipitent. Les Américains, c'est toujours de la précipitation, c'est trop rapide. Déjà, un candidat élu pour 4 ans, c'est pas beaucoup de temps pour mettre en place un programme, surtout quand vous voulez essayer de relancer un empire qui est failli. Et n'oublions pas que derrière, eh bien, la politique américaine est aux mains des oligarques. Et ça, c'est Peter Turchin, c'est Michael Lind, tellement d'auteurs qui le rappellent. Vous ne pouvez pas faire de politique aux États-Unis si vous n'êtes pas soutenu par des millionnaires. C'est impossible. Et vous regardez les représentants du Parlement américain, enfin de la Chambre du Congrès, toutes les campagnes coûtent des millions d'euros. La dernière campagne présidentielle et législative, en même temps sénatoriale, a coûté en dizaines de milliards de dollars. Et donc, ces personnes qui mettent de l'argent dans la politique ne le font pas par altruisme. Ils ne font pas pour le bonheur de la démocratie et du peuple américain. Ils veulent des dividendes. Et une fois qu'ils ont élu ces responsables, ils savent bien se faire rappeler à leurs bons souvenirs pour voter telle et telle loi en faveur de leurs intérêts financiers. Voilà le grand drame. Et c'est un drame de la démocratie américaine qui est flagrant, où les élus sont stipendiés par des laboratoires, par des groupements d'intérêts étrangers, et Trump et d'autres personnes comme ça.
Malheureusement, la France suit cette pente. Hein.
Oui. Oui, on le voit récemment, cette collusion qu'il y a entre le milieu financier et la politique, où on se rend compte que nos politiques sont vraiment, finalement, de plus en plus, même en France, des marionnettes de puissance, d'argent, qui orientent la politique de nos différents pays. Ce sont les porte-voix du monde de la finance. Et ça, c'est quelque chose qui est catastrophique. Et c'est encore plus visible, parce que plus réel, et je veux dire, c'est imprégné dans la politique des États-Unis.
Après, ce qui est intéressant, c'est la nature du. On a Make America Great Again. C'est le again, peut-être qu'on n'a pas assez analysé. C'est-à-dire que finalement, ils sont dans la nostalgie des années 50, où ils se disent finalement le Venezuela, on va tout récupérer, on va vers 12% du PIB. Et oh, c'est très bizarre en fait, il y a presque un inconscient là, c'est à t'écouter, ça donne beaucoup d'idées par rapport à cet inconscient de domination. De se dire finalement on va revenir au MAGA, mais c'est des années 50, quoi. C'est-à-dire on va les
Oui.
épuiser du point de vue du pétrole et on va régner, en fait, on va être une nation pétrolière en quelque sorte, telle que ça a été, quoi. Mais ça ne pourra pas se reproduire, en fait.
Non.
Et une sorte d'énergie presque un peu du désespoir et qui est, je trouve, très inquiétante. Il y a une question qui va dans ce sens de Hélène qui nous dit va-t-on vers une sorte de guerre mondiale généralisée? Mais moi, je trouve ça quand même très inquiétant. C'est très, parce que cette logique de fuite en avant, la Chine n'est plus la Chine des années 70-80. C'est terminé. Ce modèle-là, c'est fini, en fait. Et ils ont beau, avec leur volontarisme brutal et presque primitif, dire nous sommes les meilleurs et on va vous enfoncer avec notre armée et le pétrole, ça ne marchera pas comme ça, quoi. Et c'est assez inquiétant, quand même.
Oui, et quelle loi est-ce qu'on va donner maintenant au monde entier quand il va y avoir des conflits, quand un pays va vouloir se dire, bah, tiens, mais c'est vrai, mon voisin m'embête, je vais le kidnapper, et qui va lui faire la morale? Mais attendez, mais la plus grande puissance mondiale le fait, Trump le fait, pourquoi je ne pourrais pas le faire? À quoi, de nouveau, deux poids, deux mesures? Donc chacun va vouloir le faire. Alors peut-être si c'est deux petits pays, eh bien, ça va être plus facile d'envoyer des armes, des bombardiers pour détruire ce pays, mais quand ça va être une nation plus importante qui a une puissance nucléaire, qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Et donc c'est la loi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est la loi du plus fort. Et donc chacun va se dire, bah, attendez, mais s'il n'y a plus de loi, ce qui est le cas, hein. La vérité c'est qu'aujourd'hui, même l'ONU, De Gaulle disait que c'était un machin, c'est presque même plus un machin, c'est un atome de la géopolitique, de la diplomatie. Ils ne font rien, ils envoient que ce soit la Palestine, que ce soit le Venezuela, et ils vont faire trois mots et puis c'est tout, et on s'en fiche. Et même, j'en profite pour parler du juge français Nicolas Guillaume, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais qui est aujourd'hui sous sanctions américaines parce qu'il a demandé un mandat d'arrêt international contre Netanyahou. Et personne ne parle de ça. Et quel est l'impact pour Nicolas Guillaume? C'est qu'aujourd'hui, il ne peut plus avoir accès à des instruments, des outils américains. Donc, qu'il puisse plus aller aux États-Unis, je pense que ça lui fait une belle jambe. Mais il ne peut pas utiliser Mastercard, il ne peut pas utiliser Visa, il n'a plus de compte Amazon, il n'a plus de compte Gmail. Et on se rend compte à quel point ces outils, ces instruments des États-Unis sont omniprésents dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on est sous sanction des États-Unis, on ne peut même plus vivre dans son propre pays. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Et ça, c'est le cas d'un juge français. Et est-ce qu'on a entendu les responsables politiques français parler de lui? Personne. Je ferme la parenthèse là-dessus. Tout ça pour dire qu'on est dans la loi du plus fort, que les États-Unis profitent de ce moment de faiblesse, entre autres de notre faiblesse, pour étendre leur puissance. Mais évidemment, Harold, au bout d'un moment, ça va, ils vont s'achoper sur d'autres pays qui ne voient pas de la même œil. Alors, ou alors les puissances se mettent d'accord en disant... Ça, c'est votre territoire, ça, c'est le nôtre, ce qui est possible. Ou alors, ils vont rentrer en conflit. Le problème du conflit aujourd'hui entre grandes puissances, c'est qu'il peut très vite virer au nucléaire et croire qu'un pays qui dispose de la bombe nucléaire, qui serait en train de perdre, ne s'en servirait pas, je pense, est d'une probabilité nulle. Donc, je pense qu'ils auront plutôt intérêt à se dire, bon, écoutez, on va se répartir les richesses et les zones d'influence. C'est une probabilité qui est devenue plus importante. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais je dis que c'est plus important. Et dans ce jeu, les petits pays, les pays faibles, eh bien, vont être vassalisés par un empire ou disparaître. Et c'est ce qui pourrait nous arriver à nous si on ne fait pas attention, si on ne se réveille pas assez rapidement. Je pense qu'on peut le faire. On l'a fait dans le passé, je le rappelle. Hein, c'est De Gaulle à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La France aurait dû être aussi vassalisée que l'Italie ou l'Allemagne. C'était le but des Américains.
On le fera pas avec von der Leyen et Kallas, hein,
Ah non!
qui dit il faut faire preuve de retenue, ça marchera pas comme ça. D'où les réactions d'ailleurs. Hein. Il y a une question qui va dans ce sens justement sur le chat. Comment expliquez-vous que l'intervention américaine soit dénoncée donc de Marine Le Pen à Mélenchon et que seul le macronisme défende? C'est très intéressant dans les réactions. Puisque certains, même d'ailleurs macronistes, ont reconnu du bout des lèvres, en quelque sorte, que la réaction de Marine Le Pen était tout de même, finalement, quand même un peu plus à la hauteur, et je parle de gens qui étaient plutôt dans la sphère de Macron, que la réaction de Macron. On a Villepin, on a Marine Le Pen. Et alors comment on peut... voilà, c'est la question posée. Et c'est une question très intéressante parce qu'elle interroge l'Europe, en fait, elle interroge l'UE. Et on voit bien que le bloc fichu UE réagit de façon complètement incohérente et que ce sont ceux qui défendent en fait les peuples, on va dire, qui ont une lecture souverainiste ou populaire en fait du politique, qui eux lèvent le ton en disant ça, c'est pas possible.
Et c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire que tout n'est pas fichu, même si on peut ne pas être d'accord avec des prises de position de certaines personnalités sur différents sujets. Le fait que sur ces sujets qui pour moi sont fondamentaux, en tout cas dans mon domaine de la géopolitique, du respect du droit international, se dire que un crime commis par un pays, c'est un crime commis par un pays, quel que soit ce pays. Et là, en l'occurrence, on a affaire à un crime international, il n'y a pas de doute. En revanche, on voit très très bien qu'on a cette case dominante qui est atlantiste, qui a été biberonnée à l'américanisation de la société, qui est habitué à être vassal, qui a fantasmé, rêvé sur les universités américaines, sur les films américains, sur l'American Way of Life. Et ces personnes-là sont au pouvoir aujourd'hui. Et ne vous en faites pas, ce n'est pas un hasard non plus. Du côté des États-Unis, que ce soit leur soft power, que ce soit leur think tank, ils ont tout fait aussi pour pousser ce type de personnes au pouvoir ou dans leurs différents partis à des postes de responsabilité. C'est comme ça que ça marche. N'oublions pas que l'Union européenne est un projet américain à la base et qu'ils ont été à travers le plan Marshall. Annie Lacroix-Ri l'explique extrêmement bien. Ils ont poussé vers cette Union européenne qui était une zone politique, d'union politique, même si elle devait être économique au départ. Ils voulaient une union politique sans peuple, sans nation, sans frontières pour la libre circulation des capitaux. Des capitaux américains. Donc, il faut s'extirper de ça parce qu'il y a encore du bon sens dans les différents pays. On voit bien ce qui est en train de se passer. Il y a des personnes qui voient le problème, c'est qu'elles n'ont pas le courage de dire stop, ou alors elles ne sont pas au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, je pense aussi, craignent ce que les Américains sont capables de faire d'un point de vue médiatique. On l'a bien vu là même maintenant. Là, maintenant, il va falloir qu'ils craignent d'un point de vue de leur propre vie. Hein, qu'est-ce qui se passe à un responsable politique qui ne veut pas suivre une injonction américaine? Ben, maintenant, il sait ce à quoi s'attendre. Mais il nous faut plus de courage. On ne va pas s'en sortir avec des mots doux, avec juste des incantations sur ce qu'il faudrait faire ou pas. Au bout d'un moment, il faut le courage politique de défendre les idées, de descendre dans l'arène et d'être capable d'appliquer une politique qui défend nos intérêts et qui sanctionne ceux qui ne respectent pas d'abord nos intérêts et puis le droit international. Et ça, aujourd'hui, il y a encore du relent de ça en France. Et c'est très agréable de voir que la France fait partie des rares pays européens où, sur certains sujets, et à droite et à gauche, on a des personnes, et je pense que ça, c'est des reliquats de la résistance, qui sont capables de mettre l'intérêt des Français au-delà de leurs différents politiques.
Qu'est-ce que tu dirais alors à ceux qui reprennent ton argument et qui vont dire, ouais, mais alors, très bien, il nous faut plus d'UE. Vous voyez, cette espèce de
Alors,
logique, alors, qui disent, ouais, mais on a compris, très bien, on a compris, c'est les puissances contre les puissances, bloc contre bloc, donc il faut plus d'UE, quoi. C'est Gluglu, moi je l'appelle, enfin, c'est Glucksmann, je l'appelle Gluglu, qui lui veut plus d'Europe, désir d'Europe, etc. Alors que moi, je pense que c'est tout à fait l'inverse. Qu'est-ce que tu répondrais à ça?
parce que l'UE a failli. Là, moi, on juge un arbre à son fruit. Quels sont les succès de l'UE? Où est-ce que l'UE nous a mis en position de sécurité? Où est-ce que nous a aidés pour défendre nos emplois, pour défendre nos économies, pour défendre l'environnement, pour défendre nos frontières, pour défendre l'éducation, la santé, le droit? Là, aujourd'hui, c'est l'UE qui s'immisce, qui nous pousse vers la guerre, qui se vante de faire, qui s'ingère dans les élections en Roumanie, en Moldavie, qui veulent s'ingérer dans les élections en Géorgie. Enfin, l'UE n'a rien apporté de bon. Et au contraire, vous regardez nos résultats depuis que nous sommes dans l'UE, en tout cas depuis que nous sommes, oui, dans l'Union européenne, je parle pas de la CE, mais depuis que nous sommes dans l'Union européenne, les résultats de la France, que ce soit en termes du peuple français en tant que société, ou nos résultats économiques ou politiques ne cessent de chuter. On n'a plus de voix dans le monde. On a beaucoup de crises. Et donc, l'UE n'a pas répondu. Donc, si vous voulez, un véhicule qui n'a pas fonctionné pendant autant d'années, avec autant de milliards de dépensés, avec le monopole quasi des médias, et qui ne arrive pas à apporter la stabilité et la prospérité qu'il aurait dû, vu tous les moyens dont il disposait, n'y arrivera pas demain. Donc, si ce véhicule ne marche pas, il faut changer de véhicule. Et je pense qu'il y a une façon intelligente de collaborer entre pays européens. Et la France peut aussi profiter de la francophonie et pour avoir une collaboration intéressante avec nos voisins d'Afrique et de l'autre côté de la mer Méditerranéenne. Il ne faut pas être exclusif. Mais elle ne peut pas se faire dans une organisation supranationale avec des personnes qui se fichent de nos intérêts et qui, eux, ces personnes, elles aussi, défendent les intérêts de ces mêmes oligarques. Qui savent très bien comment fonctionne le système, qui savent très bien comment défendre leurs propres intérêts, qui savent grenouiller à Bruxelles pour défendre les intérêts de leur portefeuille au détriment du nôtre. Il faut sortir de ça. Si ça était bon, si ça avait marché, on pourrait se dire, OK, plus d'Europe, ça ne marche pas. Donc, faut au contraire quitter cette Union européenne-là.
Merci beaucoup, Nicolas Mirkovitch, pour cette discussion ce soir
Merci
extrêmement
à
intéressante.
toi, Aude. Merci, Harold, pour cette invitation.
Merci, Nicolas.
Vous étiez très nombreux ce soir en direct pour la rentrée de QG. Je rappelle les titres hein, des livres de Nicolas Mirkovitch, L'Amérique Empire, un hein, livre de référence sur les sujets que nous avons abordés ce soir, mais aussi Le chaos ukrainien et très bientôt Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront, édition des Sirtes. Eh bien, on a hâte de le savoir. Merci beaucoup, Nicolas. Tu reviendras nous expliquer comment faire, comment sortir des ronces.
Avec grand plaisir.
Merci, Harold. On se retrouve pour la suite des quartiers populaires dans 15 jours, si le ciel ne nous tombe pas sur la tête d'ici là. C'est de
Très
plus en plus.
intéressant, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur ce
C'est
sujet.
de plus en plus inquiétant tout de même. Voilà, bonne année à tous. Je vous dis à très vite. On se retrouve sur l'antenne de QG dès jeudi avec François Bouleau pour le retour de Quoi qu'il en coûte. Et puis la semaine prochaine, lundi, avec l'explication et François Bégodeau. Bonne fin de soirée, bonne nuit à tous. À très vite.
Bonsoir.